ça se finit plus vraiment comme un morceau de musique. On entend quelqu'un, you can't have any pudding, c'est-à-dire je crois qu'il engueule son fils et lui dit tu n'auras pas de pudding si tu fais pas
ses devoirs. C'est bien fait. Il avait qu'à travailler comme il faut à l'école, il aurait pu être écrivain.
Oui, mais c'est ça.
Public. Bah, on mange le pudding pour être écrivain public.
Exactement. Marie, tu nous as parlé des difficultés de ce métier. Il y a certainement plein de côtés très agréables en même temps. Est-ce que tu as un souvenir, tu as parlé de ton souvenir toulousain tout à l'heure, est-ce que dans tes plus récents souvenirs, il y a des choses particulières, sans citer les gens peut-être, mais juste...
citer les gens, alors j'espère qu'elle se reconnaîtra quand même, si elle nous écoute, alors je vais lui envoyer le lien vers la radio.
Oui,
j'ai travaillé avec une infirmière qui a passé 10 ans au Mali, et qui voulait retranscrire son expérience. Voilà, ça a été une très très belle aventure. On est parti de billets de blog qu'elle avait rédigés durant son voyage. Alors il y avait un petit peu de tout, c'était éparpillé, il y avait beaucoup d'idées, beaucoup d'émotions surtout. Mmh. Et on a fini par écrire toutes les deux un recueil de 300 pages sur son expérience de 10 ans au Mali en tant qu'infirmière.
Et ce recueil a été publié, il est lu par qui aujourd'hui? Enfin, lu par qui? Il était destiné, c'était plutôt un recueil destiné d'abord à sa famille. C'est pour elle qu'elle l'a fait? C'est pour ses proches? C'est pour que ce soit publié intentionnellement?
Non, c'était vraiment pour le grand public, pour faire connaître les conditions de vie au Mali et les conditions de santé aussi. Voilà, c'était destiné au grand public, aux Africains, aux Français, voilà, pour faire ce trait d'union entre les deux pays et pour rendre compte de cette expérience très singulière que je vous invite à lire. Oh là là, je vais devoir donner le titre.
Donne-nous le titre.
Alors, ça s'appelle Madame Brousse.
Oui.
Et c'est sous-titré, je crois, Journal de bord d'une infirmière au Mali, mm-hmm. si je me souviens bien. Et c'est édité chez Vérone.
Chez Vérone. Madame Brousse chez Vérone. Bon, on va noter ça. 300 pages, c'est ça? 300
oui.
pages, combien de temps vous avez mis à...
Plusieurs mois avec des allers-retours.
À temps complet?
Non, pas à temps complet, parce que bon, c'est le genre d'expérience qu'on ne fait pas à temps complet. De toute façon, il faut un temps de maturation.
D'accord.
C'est important d'avoir ce temps-là de chaque côté, hein, du sien comme du mien. C'était important de pouvoir intégrer ce texte, ses ressentis, ses expériences pour avoir quelque chose au final de cohérent, d'harmonieux, mais de touchant aussi, qui reflète bien ce qu'elle voulait dire au final.
Vous avez des retours sur ce livre? Il y a des gens qui ont écrit à cette infirmière pour lui dire.
Alors à moi non, hein, parce que attention, moi normalement je n'apparais pas en tout cas pas sur la couverture. Hein, j'ai ma mention en tout petit à un moment donné parce qu'elle m'a fait la gentillesse de me remercier officiellement. Hein. Moi normalement je suis nègre, suis artisan de l'ombre. Mon nom n'apparaît pas.
c'est quand même fou, je trouve ce nom de nègre. Alors aujourd'hui, ça a vraiment un caractère très péjoratif, mais à la base, le nègre, c'était l'esclave littéraire.
C'est une définition, d'ailleurs.
Oui.
Bah oui, parce que c'est une sorte d'esclave littéraire. C'est la personne qui est au service d'une autre pour écrire à sa place, quoi.
Alors maintenant, on parle plutôt de partenariat. C'est vrai, on collabore, on est en collaboration avec nos clients. Mais oui, le fond. Alors, dans les pays anglophones, ils appellent ça ghostwriter. C'est beaucoup plus joli.
Il y a un film d'ailleurs qui s'appelle Ghostwriter, si je me souviens bien.
Alors, écrivain fantôme.
Écrivain fantôme. Alors, traître fantôme ou nègre.
La définition est très belle. Nègre, j'aime pas du tout. Hein.
Non, moi non plus.
Mais c'est vrai que ça parle encore à beaucoup de gens. On l'utilise de temps en temps parce que c'est un mot qui parle. Ah bon, tu es nègre.
Ah oui, ok, d'accord.
Ah oui, alors c'est quelque chose qui parle encore, en tout cas, à une certaine génération.
Tu as évoqué tout à l'heure off, comme on dit, la notion un peu de côté psychosociaux, machin truc dans ce métier-là. Il y a des moments où tu rencontres des gens que tu as envie d'aider, parce que tu te dis vraiment ils sont dans une situation, ces pauvres gens, enfin c'est difficile, ou ça arrive souvent ce genre de cas ou pas?
Des gens qui ont besoin de parler, en tout cas, oui.
Ouais.
Des gens qui ont besoin de se raconter pour faire sortir des choses très très difficiles, hein, de leur parcours, de leur vie, que ce soit personnel, professionnel. Des gens qui ont besoin de dire, de faire écrire en l'occurrence, pour mettre un terme aussi à certaines expériences douloureuses.
Une sorte de thérapie,
pour
parfois.
Tourner la page, comme on dit. Hein, vraiment tourner la page. C'est un sens très fort pour dans ce cas-là.
Effectivement, tourner la page, c'est une belle expression en l'occurrence.
Oui,
clair.
Mais c'est vraiment ça pour beaucoup de gens. de se raconter, c'est poser sur le papier une expérience et pour pouvoir, pouvoir tourner la page. Ou pour transmettre, on en parlait tout à l'heure, hein, off records, comme tu dis. On en parlait à propos des récits de vie. Ça peut être pour transmettre à des petits-enfants, des enfants, des petits-enfants, des biographies familiales. Ça peut être des tranches de vie, comme ce dont on a parlé pour mon infirmière malienne. Mais ça peut être aussi un petit peu de l'écriture thérapeutique.
Ouais. Et il y a un de ces domaines qui t'intéresse plus que les autres ou pas, entre les biographies, les thèses, les CV, les lettres de motivation, que sais-je, il y a un domaine que tu affectionnes plus que les autres ou pas?
Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup les récits de vie parce que ça permet aussi une relation au long cours avec la personne avec qui on travaille. Donc ça permet de tisser un lien très particulier et comme bon, tous les travaux sont uniques, hein, on travaille jamais deux fois de la même façon, on écrit jamais deux fois la même chose, bien sûr, et tout doit passer dans... On doit retrouver dans l'écrit, en tout cas, cette relation particulière et privilégiée avec la personne avec qui on a travaillé.
Ça demande quelle qualité d'être écrivain public, Marie ?
De l'écoute, beaucoup, bien sûr. Hein, ça, je pense que c'est le trait principal. Ça demande d'aimer les gens, d'aimer entendre leurs histoires, de les aimer... Ça a failli être un lapsus, mais ça n'en est pas un finalement. D'aimer les gens, d'aimer les rencontres, parce que finalement, on a besoin de rentrer presque dans la peau des gens pour pouvoir écrire à leur place. Il y a une dame que j'aime beaucoup, qui est une cliente régulière, qui m'a fait un jour un compliment magnifique. Elle m'a dit... elle m'a dit, c'est drôle, vous avez écrit avec vos mots, ce sont vos mots que je lis, mais j'ai l'impression qu'ils ont été écrits avec mon âme.
Waouh,
c'est magnifique.
La plume trempée dans son cœur pour
l'instant. Alors là, elle a été trempée de larmes de mon côté, parce que j'ai trouvé ça très beau.
C'est justement la question que je voulais vous poser. Lorsque vous écrivez comme ça pour les gens, il y a un côté émotionnel aussi. Comment vous arrivez à le surmonter?
Alors oui, alors surtout pour ce qui est récit de vie, biographie, mais aussi pour des courriers qui peuvent être des demandes difficiles à formuler. Alors oui, ça demande d'arriver à se mettre quand même un petit peu à distance pour se protéger aussi, c'est pas toujours évident. Et bon, ça je n'arrive pas toujours à le faire. C'est vrai que les gens après, dans cette relation-là, peuvent avoir une demande qui dépasse le cadre de la prestation en écriture. J'ai un client comme ça qui est venu me voir très souvent dans le cadre du travail, hein, bien sûr, mais qui après revenait régulièrement parce que il se rendait compte que ça lui faisait du bien de parler, que c'était
quelque chose
de bon pour lui.
Alors c'est pas votre boulot à la base.
Là c'est plus ton boulot quoi.
Non, ça l'était plus, mais c'est difficile là aussi de fixer des limites.
Et puis c'est difficile de couper le lien parce que il vous a expliqué sa vie, il vous a fait partager sa vie.
Bon, finalement on pénètre complètement dans la sphère intime de la personne et on devient quelqu'un de proche.
Et d'important pour lui.
Oui.
Donc là, il faut être très forte.
Voilà. Après, ça dépend avec qui on travaille, mais il y a des relations qui peuvent durer plus longtemps que d'autres.
On se propose un autre intermède musical avec à nouveau une petite référence. Cette fois-ci, c'est pas la cocaïne, c'est pas le LSD,
c'est l'héroïne.
C'est l'héroïne. Alors, nous avons une sorte d'héroïne en face de nous, sans jeu de mots bien entendu. Et là, c'est un autre genre d'héroïne à travers Elliott Smith, Tindall in the Hay. Tu m'as dit tout à l'heure que ça t'évoquait un cinéaste
que tout le monde devrait connaître, en tout cas, qui s'appelle Wes Anderson et qui a réalisé des films absolument magnifiques comme La famille Tenenbaum, dans laquelle on entend Needle in the Hay.